bordelbrefm.fr.
Une vague d'émotions.
Bienvenue dans Escale en Pays Landais. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Jacques Taillantou, président de l'association Mémoire en Marensin. Avec lui, j'ai choisi d'évoquer la présence des douaniers sur nos côtes. Les douaniers, premiers habitants, mais aussi premiers sauveteurs de la côte. Qui sont-ils? Quel est leur travail? Un point d'histoire locale un peu méconnu qui ne manquera pas de vous passionner et de vous éclairer sur les paysages et activités que nous connaissons aujourd'hui et qui ne sont autres que l'héritage de ce passé côtier et maritime. Alors avec Jean-Jacques, nous allons parler de douaniers, de contrebande peut-être. Qui sait? À l'aventure en tout cas.
bordelbrefm.fr.
Alors comme vous l'avez bien précisé, c'est une histoire qui est relativement méconnue. La mémoire des douaniers sur le littoral landais est certainement oublié de beaucoup d'entre nous aujourd'hui, puisqu'il n'y a pratiquement plus aucune trace physique de leur présence. On l'évoquera certainement en expliquant qu'il y a eu sur la côte des bâtiments qu'on appelait la maison de la douane ou le poste de douane ou tout simplement la caserne. Vous avez encore un témoignage aujourd'hui, vous avez une des plages de Seignos qui s'appelle Les Casernes, et le mot Les Casernes vient de l'emplacement et du nom des bâtiments dans lesquels des douaniers étaient hébergés au XIXe siècle encore. Alors, cette histoire des douaniers, elle est... Pourquoi y avait-il des douaniers sur le littoral landais ou sur le littoral de landais et girondin d'ailleurs? Alors, leur mission était triple. Il y en avait une qui paraît évidente au départ, c'est-à-dire contrôler, comme disait Chantal, les contrebandes, les trafics illicites. Ça, c'était sa fonction première. Mais une qui arrivait tout de suite en second, c'était le sauvetage des marins qui pouvaient ou échouer sur la côte landaise, des bateaux qui étaient mis en difficulté aussi à quelques centaines de mètres du rivage. Et la troisième mission, c'était aussi protéger et récupérer ce qu'il était advenu de ces fameuses épaves, des cargaisons, des marchandises qui arrivaient sur la côte landaise.
Cela veut dire qu'il y avait des pilleurs, des contrebandiers?
Alors, il y a les deux. Alors, si on remonte un petit peu dans le temps, pour donner un exemple de contrebande, il y en a une qui était relativement importante à la fin du XVIIIe siècle. Il y avait une contrebande sur la côte landaise et qui était liée essentiellement au trafic de tabac. Et pourquoi le trafic de tabac? Parce que le tabac entrait dans le port de Bayonne. Bayonne était considéré à cette époque-là comme, on dirait aujourd'hui, une ville franche. Donc il était intéressant de récupérer du tabac sur la côte landaise, sur la côte basque, dans le port de Bayonne, et le vendre plus cher en dehors de cette zone de franchise. Et il y avait un trafic régulier de barques qui arrivaient, en particulier au niveau du Marensin, donc d'ici, entre Jubouco et, on va dire, Contis. Et des barques arrivaient, débarquaient. Et là, il y avait quelque chose d'assez curieux à l'époque. Les populations locales venaient en masse, quand je dis en masse, c'est 100, 150 personnes, on l'a retrouvé dans les archives, qui venaient sur un rivage qui était très difficile d'accès, on l'évoquera tout à l'heure, et qui venaient accueillir et récupérer cette manne pour pouvoir en faire le commerce. Et pourquoi venaient-ils si nombreux? Parce que déjà au XVIIIe siècle, il y avait ce qu'on appelait la ferme. Les fermiers avec une majuscule, c'était les ancêtres des douaniers, c'est-à-dire les hommes qui devaient, au départ, récupérer les impôts, qu'ils soient directs ou indirects, pour la monarchie. Donc il y a eu des affrontements, même physiques, entre ces douaniers et ces populations d'hommes, de femmes, d'enfants qui venaient sur la côte pour protéger cette arrivée illicite de marchandises. Et donc il y avait un trafic relativement important de ce type de produits. Voilà. Après au XIXe siècle, il n'y a pratiquement pas de contrebande. Les douaniers vont surveiller la côte, vont surtout essayer de protéger les marchandises qui arrivent. Par contre, pour répondre à votre question, quand un bateau arrivait à la côte, même si la côte, au XIXe siècle, était difficilement d'accès, quand un bateau arrivait à la côte, il était, en tout cas, il pouvait être pillé, en tout cas, en récupérer ce que l'océan avait amené. Ça, c'était certain. C'était une tradition classique, puisque vous aviez eu, il y a quelque temps, à Vieux-Bouco, la fête de la coustille. La coustiller, costiller, costoyer, ça voulait dire récupérer à la côte ce que la mer avait amené. Et la culture locale, la culture littorale, faisait en sorte qu'on considérait que ce que la mer amenait était la propriété de celui qui l'a trouvé. Ce que la loi interdisait, évidemment. Et donc, les douaniers avaient pour mission d'éviter ces pillages qui sont classiques sur toutes les côtes du monde et qui sont toujours d'actualité.
Surveiller la côte, c'est quoi au juste? Parce qu'elle ne semble pas bien dangereuse, cette côte-là.
Oui, alors justement, on a l'impression, parce que ce n'est pas une côte rocheuse, on a l'impression que c'est une côte accueillante. Nous, on a cette impression-là aujourd'hui, avec une côte sablonneuse, une dune qui ourle ce littoral-là, mais c'était... Le contexte pour des bateaux est très compliqué. Et d'autant plus qu'au XVIIIe et au XIXe siècle, quand les douaniers vont vraiment s'y installer de manière ferme, il faut imaginer que notre côte ne ressemble pas à celle que nous avons aujourd'hui. Si on remonte au XVIIIe et au XIXe siècle, on a une côte qui est rectiligne comme celle d'aujourd'hui, sauf que vous n'aviez pas, déjà en bord de mer, vous n'aviez pas la dune littorale. La dune littorale que nous franchissons pour aller à l'océan, n'existe pas. Elle est entièrement créée par l'homme. Elle sera créée dans les années 1820-1830 pour éviter justement l'invasion des sables à l'intérieur des terres. Donc il n'y a pas de littoral. Et entre la plage, on va dire, et tous les villages de la côte landaise, il y a un système dunaire totalement nu. Il faut bien penser que si vous regardez tous les villages landais de la côte, ne sont pas en bord de mer. Alors vous allez me dire, oui, Vieux-Boucau, Cabreton est en bord de mer. Non. Si vous regardez l'église de Cabreton et l'église de Vieux-Boucau, elle n'est pas en bord de mer. Et pourquoi sont-elles, elles, si près de la mer? Parce que c'était les anciennes embouchures de la Dour. C'est les seules raisons. Si vous prenez toutes les autres communes, on va un peu plus vers le nord, vous allez à Messanges, à Saint-Girons, Litémix, Mimizan, Biscarrosse, vous êtes à entre 4 et 8 km de la côte. Aucun village n'est en bord de mer. Et si vous regardez les églises de tous ces villages-là, qui sont toutes à peu près la même époque, 13e, 14e, 15e siècle, elles ne sont pas en bord d'océan. Donc il y avait entre la mer, l'océan, on dit la mer effectivement, nous, on ne dit pas le mot océan, entre la mer et ces villages-là, il y avait un système dunaire totalement nu. Aujourd'hui, on ne s'en rend plus compte parce qu'il a été conquis par l'homme et couvert par le pin. Mais il y avait ce système dunaire qui était un obstacle aux populations locales, mais malgré cet obstacle-là, aller régulièrement sur la côte pour... certains pour pêcher, en particulier le bateau, la pinasse, ou pour récupérer ce que la mer apportait.
Les douaniers, premiers habitants, vous avez souligné, ça veut dire qu'ils ont amené avec eux une population, ou ils ont incité la population à s'installer autour d'eux, de par leur activité?
Presque indirectement, parce qu'en fait, vous allez voir que les douaniers, tout à l'heure, ont parlé de sauveteurs et de premiers habitants, mais c'est peut-être eux... indirectement, qui vont entraîner, de manière totalement involontaire, l'implantation des stations balnéaires. Parce qu'en fait, quand on regarde 150 ans, 200 ans après, l'implantation de ces postes de douane, on va dire, tous les postes de douane à partir du début du XIXe siècle, c'est vraiment au XIXe siècle que la douane avec une majuscule qu'on connaît aujourd'hui, qui devient une administration née de la Révolution française, c'est au début du XIXe siècle qu'on a les premiers postes des douanes qui s'installent sur le littoral landais girondin. Et systématiquement, ils s'installent aux embouchures des courants. Ça peut être par exemple courant de Contis, courant de Duchette, ça peut être courant de Souston ici, et ça peut être le Boucarotte pour Cabreton. On a les postes de douane, les principaux, qui sont aux embouchures. Et pourquoi ils s'installent aux embouchures? Parce qu'accéder à la mer à cette époque-là, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'était très compliqué. Et le moyen le plus simple de traverser ces sables, qui étaient, il faut bien penser que c'est des sables type saharien, donc très compliqués à traverser, dangereux, pénibles. Il y avait perte de repères, c'était régulier. Le seul moyen d'y aller en sécurité relativement facilement, c'était emprunter ces courants. Et donc les douaniers, quand ils sont installés, leur première cabane, les premiers postes de douane, c'est une cabane dans laquelle ils vont passer la journée, c'est tout. Et ils vont s'installer systématiquement aux embouchures. Et ces embouchures, très vite après, alors plus tard, mais les douaniers s'installent là, vont amener très rapidement d'autres gens, au milieu du XIXe siècle, qui vont venir créer les embryons de stations balnéaires. Les premières maisons en bois vont s'installer proche de ces postes de douane. Et vous avez, ce serait un autre sujet, mais les postes de les stations balnéaires vont naître de ces embouchures-là et de l'implantation de ces douaniers. Donc ces douaniers qui s'installent sur... La côte sont des habitants au départ très qui vivent que la journée. Mais à partir des années 1830, on va, de manière étatique, installer une sorte de modèle de poste de douane, toujours la même architecture, pratiquement la même structure, avec trois pièces, une sorte de dortoir dans laquelle il y a trois ou quatre douaniers, une autre pièce qui est réservée au capitaine, une pièce centrale pour la vie quotidienne, et une autre place pour du matériel, parce que vous allez voir que du matériel, il en faudra après pour participer au sauvetage. Voilà donc comment ces douaniers s'installent sur la côte, et à partir de 1830, vont y habiter à temps complet, même s'ils sont relayés tous les 15 jours par une autre équipe, parce que toujours même chose, penser qu'un cabanon ou une petite maison qui est en bord de mer en 1830, elle est isolée du village par 7 à 8 km de dunes qui sont pratiquement infranchissables ou très difficilement accessibles. Donc on reste 15 jours sur place, et au bout de 15 jours, on va au village chercher des provisions, et il y a des descriptions assez étonnantes de ces douaniers, très émouvantes parfois, expliquant qu'ils sont vraiment totalement perdus là, dans ces maisons-là, entourés par un sable qui est nu, pas de végétation, la proximité de la mer bien sûr, mais c'est tout. Et donc il y a cette sorte d'angoisse permanente de ces douaniers qui sont isolés, vraiment isolés du monde.
Au bout du port, près du vieux phare, là où le vent souffle plus fort, j'aime à flâner, parfois très tard, pour mieux m'imprégner du décor. Je vois des bateaux, des chargements, j'entends des bruits, j'entends des chants. Il y a comme un parfum d'aventure, un peu de sel sur ma figure. Chanter la mer et les marins, comme un vieil air, comme un refrain, qui nous tient toute la journée, nous donne envie de fredonner. Chanter la mer, chanter sans fin, pour dire ce qu'il y a dans notre cœur, ce dont nous rêvions tout gamin, qui nous chavire encore à cette heure. Apprendre toutes sortes de mots, du cabestan à l'étambeau, presque un second vocabulaire, le jargon des gens de la mer. Embarquer avec l'équipage, mettre à profit tout ce langage, puis par bon vent se faire une virée, mettre le cap sur l'amitié. Chanter la mer et les marins, comme un vieil air, comme un refrain, qui nous tient toute la journée, nous donne envie de fredonner. Chanter la mer, chanter sans fin, pour dire ce qu'il y a dans notre cœur, ce dont nous rêvions tout gamin, qui nous chavire encore à cette heure. Se retrouver entre copains, par tradition, café du port, pour partager quelques accords, trinquer à l'appel des embruns. Ça joue du trad, ça joue Guimer, ça joue Budet, ça joue Tonnerre, et les chansons de notre plume, faites de vent, de bleu, d'écume. Chanter la mer et les marins, comme un vieil air, comme un refrain, qui nous tient toute la journée, nous donne envie de fredonner. Chanter la mer, chanter sans fin, pour dire ce qu'il y a dans notre cœur, ce dont nous rêvions tout gamin, qui nous chavire encore à cette heure. Chanter la mer et les marins, comme un vieil air, comme un refrain, qui nous tient toute la journée, nous donne envie de fredonner.
Avec Chantal sur Port d'Albret FM.
Il y a des descriptions assez étonnantes de ces douaniers, très émouvantes parfois, expliquant qu'ils sont vraiment totalement perdus là, dans ces maisons-là, entourés par un sable qui est nu, pas de végétation, la proximité de la mer bien sûr, mais c'est tout. Et donc il y a cette sorte d'angoisse permanente de ces douaniers qui sont isolés, vraiment isolés du monde. Tout ça va disparaître, en fait, l'isolement va disparaître parce que on va accéder à la mer plus facilement pour une autre raison que les courants, c'est que ces dunes vont, à partir des années 1820-1830 jusqu'en 1870, vont être stabilisées, vont être végétalisées, vont être couvertes de pins et protégées par cette dune littorale que nous connaissons aujourd'hui.
Est-ce que ces douaniers, on pourrait les comparer aux gardiens de nos phares?
Alors vous savez, oui, mais avec une mission, enfin, une mission beaucoup plus importante que celle des gardiens de phare, parce qu'il y a eu, sur la côte andaise, il y a un phare, le phare de Contis, qui est construit en 1863. Les gardiens ont un rôle doivent porter secours, mais c'est très limité dans l'espace. Et ils n'ont pas d'équipement qu'auront les douaniers petit à petit au cours du XIXe siècle. Mais ça fait partie vraiment de leur mission presque première au XIXe siècle. C'est porter secours aux naufragés. Puisque la contrebande, elle n'existe pratiquement plus. Et c'est vraiment eux les premiers sauveteurs, parce qu'ils sont sur place, ils sont tout le temps là en permanence. Et leur mission, même s'il n'y a pas les moyens techniques d'aujourd'hui, c'est tout simplement de faire des sortes de rondes, enfin, ce n'est pas le cas, des déambulations sur la plage, et de contrôler si un bateau arrive à la côte. Et on a des traces écrites très importantes aussi, puisque c'est des rapports de douaniers, donc très sérieux, mais aussi très émouvant, parce qu'on voit bien qu'ils s'impliquent dans les secours qu'ils apportent, et dès qu'ils repèrent un bateau en difficulté, que ce soit un voilier ou un peu plus tard des bateaux à vapeur ou plus tard diesel, ils vont essayer d'assister le plus possible ces bateaux qui s'approchent de la côte, parce qu'ils arrivent à les repérer. Un bateau qui échoue sur la côte hollandaise, on le voit venir, c'est un bateau qui a des difficultés, et qui à un moment va dériver, il va arriver sur la côte et il va se faire prendre par les bancs de sable qui sont à quelques centaines de mètres. Et ça, les douaniers l'ont bien compris, ils vont suivre. Et à partir des années 1840, 1850, ils sont pratiquement présents dès que le bateau... Alors, il n'échoue pas sur la plage, il ne faut pas fantasmer. Un bateau arrive sur la plage, c'est très très rare. En fait, un bateau, il va être pris dans les bancs à 100, 200, 300 mètres carrés de la plage. Il va être balayé par les vagues. On a des témoignages de douaniers qui expliquent qu'ils ne peuvent pas intervenir la plupart du temps directement sur les bateaux parce qu'ils n'ont pas les moyens que nous connaissons aujourd'hui, mais surtout parce qu'ils ne sont pas sur la plage, justement. Ils sont pris dans les brisants, que souvent les naufrages ont lieu quand la mer est... En hiver, actuellement au mois de février, on a des tempêtes régulières, donc c'est très difficile d'intervenir. Et on a certains témoignages de douaniers qui racontent qu'ils entendent les cris des marins, ils entendent les mâbles se briser, les coques exploser sous le choc répété des vagues. Et puis à un moment donné, même s'il n'y a jamais de silence, mais ils entendent l'absence de voix, c'est fini. Donc il y a plusieurs témoignages comme ça, ils ne peuvent pas intervenir. Mais ils vont le faire quand même dès qu'ils peuvent, souvent de manière très courageuse. La plupart de ces douaniers ne savent pas nager.
Donc ils se mettent à l'eau et ils vont vers les bateaux.
Ils commencent à avoir des équipements. À partir des années 1840, il y a des équipements de secours. Le but, c'est de faire ce qu'on appelle mettre en place un va-et-vient avec un système de... Je simplifie un peu à l'extrême. Mais c'est l'idée là, d'avoir un fusil qui lance ce qu'on appelle un lance-amarre. C'est-à-dire comme un harpon. Exactement. Il ne faut pas que la distance soit trop importante. Donc quand ils arrivent à faire ce va-et-vient, là régulièrement, on sait qu'ils vont secourir une partie de l'équipage ou tout l'équipage. Mais si ce va-et-vient ne peut pas être mis en œuvre, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Il n'y a que les marins, les capitaines qui sautent à la mer. Et là, qu'on peut récupérer en lançant des bouées. Mais c'était très, très sommaire. Il n'y a pas les moyens techniques, il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de navette. Tout ça n'existe pas. Mais ils sont vraiment sur le terrain. Et on a beaucoup de témoignages de bateaux qui échouent. Et les douaniers vont sauver beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces marins. Ils sont souvent récompensés, mis à l'honneur par leur hiérarchie. Et vont jouer un rôle majeur... tout au long du XIXe siècle.
D'où l'idée qu'ils seraient les premiers sauveteurs de la côte.
Exactement. Enfin, moi, j'en suis persuadé. C'est les premiers sauveteurs. C'est les premiers hommes qui vont intervenir pour sauver des gens qui sont pris par la mer. Et puis, le tourisme va arriver dans les années 1860-1870. On commence à avoir un tourisme balnéaire, mais qui ressemblerait presque à celui d'aujourd'hui, c'est-à-dire on va à la mer, et les douaniers vont être là aussi, s'ils le peuvent, pour intervenir, si les gens se baignent, sachant que, je rappelle, en 1870, on va peu à l'eau, et quand on va à l'eau, on ne sait pas nager. Parce que les gens allaient à la mer au départ pour prendre des bains de mer, et souvent ces bains de mer ne se prennent pas dans l'océan, ils se prennent dans des baignoires qui sont installées sur la dune, dans des premiers établissements de bains de mer. Ou quand ils se prennent un bain, c'est aussi un bain de sable. Voilà. Donc c'est une époque très particulière, mais voilà, les douaniers sont les premiers sauveteurs. Et ils vont, c'est eux qui vont contribuer aussi à participer à la création de ce que nous on appelle aujourd'hui la Société nationale des secours en mer. Aujourd'hui, quand un bateau est en difficulté, vous avez un bateau qui sort de Cap-Breton, qui appartient à la SSM, Société nationale des secours en mer, et qui va intervenir sur des bateaux en difficulté. Donc, la première station de secours en mer sur la côte andaise, mais c'est Cabreton, et ça allait rester depuis. Mais c'est né, ça aussi, de la présence des douaniers au départ, qui ont besoin de secours plus lourds. Et le seul endroit d'où un bateau pouvait partir à cette époque-là, et c'est toujours le cas aujourd'hui, c'était Cabreton, et c'est toujours Cabreton.
Ces douaniers, ils ont disparu vers quelle époque ?
Ils disparaissent à la Première Guerre mondiale. Il y a un changement important, c'est-à-dire la côte est plus accessible, il y a plus de présence sur la côte, c'est vrai. On commence à construire, les stations balnéaires se développent, puis il y a des raisons financières, puisqu'il y a moins de trafic à cette époque-là, en tout cas sur le littoral. L'utilité des douaniers paraissait pour l'administration moins judicieuse. Mais ils vont laisser quelques vestiges, qui sont malheureusement tous en train de disparaître, de ces fameux postes de douaniers. L'un des derniers, alors, c'était une... On la voyait encore jusqu'à il y a 2 ans, un poste de douane qui était au sud de la station de Cap de Lomi, à l'ITMX. C'était vraiment le modèle parfait de ce qu'était le poste de douane, mais bon, malheureusement, il a été détruit. Donc avec cette disparition, a disparu une partie de la mémoire de ces douaniers.
Donc il n'y a plus de témoignages de
leur présence ? Alors il y a une présence physique avec un bâtiment qui correspondrait à ce qu'on a connu au 19e. Je pense qu'il n'y en a pas. Il y en a un à Contis, mais qui a tellement été transformé que le lieu existe, la structure existe, mais ça ne ressemble plus à ce qu'était ce qu'on appelait la capitainerie des douaniers, parce qu'à Contis, il y avait un poste plus important, mais voilà.
Donc ce qu'on sait des douaniers, c'est d'après les traces écrites
qu'ils ont laissées, oui.
Parce qu'ils écrivaient énormément.
Beaucoup de rapports,
j'imagine.
Oui, c'est une administration d'État. Oui, beaucoup de rapports, en particulier liés au sauvetage et aux récupérations de protection aussi des marchandises qui arrivaient à la côte. C'était leur mission essentielle.
Est-ce qu'il y a des douaniers qui ont été plus connus que d'autres ?
Alors, des douaniers... Alors, là, les archives sont très compliquées, parce qu'il y a peu de données par rapport au nom. Il y en a quand même... Il y en a deux qui concernent les Landes et qui ont laissé une trace, certainement par leur action de douanier, mais parce qu'ils ont écrit, ils ont laissé des souvenirs et ils étaient à leur manière... Pas à leur manière, ils étaient des historiens. Il y en a un qui était sur Cabreton, qui s'appelle Bartraud, qui était capitaine des douanes, et qui a laissé, lui, des documents écrits. Alors, très très riche sur l'histoire de Cabreton, sur l'organisation du village, sur la pêche, sur l'histoire du village, sur la création de la station balnéaire, et sur Vieux-Boucau, il y a ce personnage incontournable qui est Bernard Saint-Jour, lui aussi, qui a été douanier, qui a quitté Vieux-Boucau pour aller travailler très loin dans les Alpes parce qu'il avait devenu capitaine, mais il est revenu en fin de carrière, voilà, il est mort ici, et pendant 30 ans, parce qu'il a eu la chance de vivre 30 ans après sa fin de carrière, il a publié beaucoup d'ouvrages, d'articles, et qui sont toujours aujourd'hui, qui sont toujours des références. Alors bien sûr, il a commis des erreurs comme tous les historiens, mais il a fouiné, il avait un double avantage, c'est que c'était un homme des terrains, il connaissait très très bien le littoral, d'autant plus que son père était lui-même douanier, qu'il a vécu son père a travaillé sur Vielle et Saint-Giron, et en même temps, sans être un historien de formation, il avait quand même beaucoup de rigueur, et tous ses écrits s'appuient sur des documents d'archives. Alors après, l'interprétation qu'il en a fait parfois peut-être est discutable, mais ça reste une mine encore aujourd'hui. Et malheureusement, c'est quelqu'un qui est relativement peu connu. Alors, ses publications ont été rééditées, tant mieux, elles sont accessibles, mais c'est quelqu'un qui mérite d'être connu, reconnu et lu.
Bon, alors ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une autre fois une émission consacrée uniquement à Bernard Saint-Jour. Comme ça, on fera connaissance avec cette sommité boucalaise.
Avec plaisir.
Voilà, pour aujourd'hui, on va en rester là sur le domaine des douaniers, sauveurs et premiers habitants de notre cité boucalaise et de la côte atlantique. Je vous remercie Jean-Jacques pour
Merci
votre intervention éclairée et éclairante. Et on se dit donc à une autre fois pour un autre rendez-vous autour de notre histoire locale.
À bientôt.
Port d'Albret FM, une vague d'émotions.